Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumaud.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs et des meilleures investisseuses. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web. Et puis, on salue tous ceux qui nous écoutent en podcast en dehors de France. Le programme de l'heure à venir, dans 10 minutes, l'immobilier. Où en est la construction de logements neufs? Y a-t-il des assouplissements en vue avec les banques vis-à-vis du crédit? C'est Laurent Mouret, le patron du promoteur Link City, qui sera avec moi et Marie pour en discuter. Le question du réponse du jour portera sur les matières premières. On fera le point sur l'argent, le cuivre, le carbonate de lithium, entre autres. Ces sujets matières premières, ils vous concernent. Et nous allons donc passer un petit peu de temps dessus. Aujourd'hui, on investira dans la bande dessinée. Oui, on décryptera le marché de la BD, les auteurs contemporains à suivre, et puis bien sûr les historiques Hergé, Uderzo et l'inimitable Sempé, dont les cours s'envolent aux enchères. La maison Arcurial, qui détient quelques records d'ailleurs, sera avec nous pour en parler et parler de cet investissement thématique. Vous êtes également au programme, chers auditeurs, auditrices, vous participez à notre antenne, vous êtes assez nombreux et nombreuses à m'écrire ce matin, notamment en réaction aux différents sujets que nous avons abordés. Le sujet de l'investissement dans la défense, on en reparlera si vous le voulez bien. Je vous avais adressé quelques sujets, investissement dans la souveraineté européenne et la défense notamment. Vous continuez à nous écrire, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou bien en message privé sur LinkedIn, je vous lis également. C'est l'heure de partir rejoindre Antoine du côté de Euronext pour faire le point sur la séance en cours. Cher Antoine, ça fait une heure, toujours aussi peu de mouvement à Paris, le CAC quasi inchangé. Antoine, est-ce que vous m'entendez? Il y a tellement peu de changements sur le CAC que vous-même, vous ne bougez plus. Je pense que nous avons un petit problème de connexion avec Antoine Larigauderie. Nous reviendrons faire le point sur les marchés avec lui quand il nous entendra et qu'on aura une connexion rétablie avec Euronext.
Pour investir sur BFM Business. Sur BFM Business, Audrey Tcherkov.
Chaque semaine, je reçois un acteur du monde économique, politique, culturel ou associatif. Chacun se dit être un acteur du changement. J'ai donc décidé de les soumettre à la réalité et aux défis qu'il reste à relever pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion.
Impact by Tcherkov avec Audrey Tcherkov, jeudi à 22h sur BFM Business.
Nous sommes reconnectés avec vous, Antoine, à Euronext. Le CAC 40 qui ne bouge peu ou prou, pas du tout, depuis qu'on s'est parlé il y a une heure. Racontez-nous.
Ah bah oui, hein, plus 0,05%, effectivement, toujours aussi peu de tendance. Hein, 8189 points, je lisais à l'envers. Pour vous dire, on est sans doute au plus haut de la séance là en ce moment, donc c'est dire s'il y a peu de mouvement. Il y en a un petit peu plus du côté de Francfort qui prend 0,26%, plus 0,19% pour l'Eurostock 50, donc globalement un marché bloqué. On attend des indicateurs du côté des États-Unis qui pourraient activer un petit peu les choses, parce que pour le reste, on est toujours dans ce moment de temps suspendu. Est-ce qu'il est temps de prendre des bénéfices? Est-ce qu'il est temps de poursuivre à la hausse? Là, pour l'instant, les marchés sont en train de répondre qu'il n'y a pas assez de catalyseurs pour continuer à grimper. Donc du coup, on fait du cas par cas. À noter Kering qui signe la plus forte hausse du CAC, la plus forte baisse, pardon. Moins 1,59, on est à 359,10 €. À noter Unibail Rodamco, moins 1,13, 73,72 €. Total toujours en délicatesse avec des prix du brut qui ont corrigé, du côté des 85, même en dessous. Pour le Brent de mer du Nord, 84,91 $. Danone, moins 0,75, 59,56 €. Du côté des valeurs à la hausse, en revanche, on a là des valeurs vraiment défensives. Orange, plus 1%, 10,74 €. Bouygues, plus 0,9 à 38 €. Michelin, plus 0,79, 35,91 €. Euroapi signe toujours la plus forte hausse du SBF 120 à plus 5,58, 2,67 €. Et puis Ruby, toujours sous l'impulsion de la montée au capital de Bolloré, plus 1,6%, 32,12 €. Le CAC, plus 0,01, 8185 €. Le Rouen, dollar, 0,828 €. Lorraine.
Vous allez nous raconter une histoire banquière ce matin.
Tout pour investir. L'histoire d'Antoine.
En effet, notre CAC 40 bouge peu depuis ce matin, mais ça bouge du côté des banques et ça faisait un moment, avec beaucoup d'opinions d'analystes depuis le début de la semaine et les arbitrages qui font rage. Expliquez-nous cela, Antoine.
Ben oui, c'est sans doute le secteur le plus actif depuis le début de semaine, vous l'avez dit, dans un marché un petit peu morne. Ben, tout simplement, premièrement, parce que ça faisait quand même des semaines, des mois, voire peut-être même un peu plus, que les banques n'avaient pas fait l'actualité. Le facteur déclencheur, ça a quand même été ces déclarations de BNP Paribas, qui voient des perspectives et des gains de productivité, grâce notamment à la mise en place d'une politique vraiment proactive à ce niveau-là. Et on savait que les banques étaient à l'os, hein, en termes d'effectifs, du point de vue de la productivité à ce niveau-là, mais que voilà, BNP Paribas se gardait encore un petit peu de marge à ce niveau, de quoi faire repartir les arbitrages des analystes à ce niveau-là, les objectifs de cours, les opinions d'analystes. Donc du coup, pour ce qui est de BNP Paribas, on a eu une opinion acheteuse, d'ailleurs, c'était hier, de Goldman Sachs hein, sur la valeur, ils sont passés de conserver à achat. Et puis là, on a tout. On a Morgan Stanley, par exemple, qui remonte sa cible sur BNP Paribas de 70 à 74 euros. Deutsche Bank, qui relève son objectif de cours de 70 à 78, mais qui était déjà à l'achat. Donc, on voit que BNP Paribas, ça pourrait être véritablement la valeur en pointe. Parce que pour le reste, c'est beaucoup plus partagé. On a sur Société Générale, par exemple, la Deutsche Bank qui passe d'achat à conserver. L'objectif de cours est réduit de 32 à 29 euros. Et puis, pour ce qui est du Crédit Agricole, là, c'est vraiment mitigé avec Morgan Stanley qui passe de sous-pondéré à pondération en ligne, alors que Deutsche Bank relève son conseil de conserver à achat et l'objectif de cours de 13,50 à 17 euros. Donc vous voyez, il y a des progrès à faire en termes de valorisation, des progrès à faire en termes de productivité de la part du secteur bancaire dans les prochains mois, et ça pourrait être justement la marge qui va intéresser les investisseurs pour retravailler un secteur qui a été quand même en déshérence pendant des mois.
Enfin, le réveil en bourse des banques, peut-être. C'était votre histoire financière. Merci beaucoup Antoine. Cette chronique est à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application BFM Business. Vous le savez, si vous voulez réécouter les histoires financières d'Antoine, elles y sont toutes sur la page de Tout pour investir. C'est le moment de parler immobilier avec Marie. Est-ce également le retour des logements neufs ? À tout de suite.
Tout pour investir. La place de l'IMO.
La place de l'IMO et du neuf ce matin avec vous, chère Marie. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Laurent Mouret est avec nous. Monsieur Link City, directeur général de Link City France et président de Link City Île-de-France, double casquette. Bref, notre promoteur du jour. Pour discuter, eh bien, de où en sont les logements neufs.
Mais oui, alors je vous le dis à chaque fois, on fait presque une pré-interview avec nos invités avant l'antenne, ce qui est très mal, mais quand même, on en parlait avec Laurent Mouret hors antenne, je lui disais... on a quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, et vous savez, si vous nous écoutez régulièrement, que je ne suis pas forcément très tendre avec les pouvoirs publics.
Non, c'est compliqué.
Mais le fait est qu'on a une multiplication d'annonces, de simplifications, et la dernière en date, c'était de nouveau des bascules de zonage de plusieurs centaines de villes qui vont passer de zone détendue à zone tendue, ce qui permettra de faire des dispositifs, d'appliquer des dispositifs d'aide à l'achat, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics face à la crise que traverse aujourd'hui la construction en France?
Bonjour Lorraine, bonjour Marie.
Oui, bonjour Laurent.
Bonjour. J'ai l'impression que comme un peu dans toute crise, on atteint un moment là de bascule. Et je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'on puisse basculer du bon côté. Effectivement, on sent que l'État, le gouvernement s'est quand même saisi du sujet du logement. Ça a commencé avec la visite et les annonces de Gabriel Attal quand il est venu sur un chantier Link City d'ailleurs faire
pas
ses
peu
premières
fier,
annonces.
Pas peu fier, enfin,
on était très très fiers et très heureux de l'accueillir. Quand il a annoncé ses premières mesures sur le logement, les 22 territoires, le soutien du LLI.
Aujourd'hui, logement locatif intermédiaire.
Exactement, le locatif intermédiaire, vous faites bien de le préciser. On voit aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, l'annonce des 800 communes. On aura bientôt la liste, en tout cas on l'attend avec impatience, qui vont donner droit notamment à l'élargissement du PTZ et considérer que c'est des zones tendues. Il y a quelque chose aussi qui s'est passé à l'Assemblée avec un vote à l'unanimité sur la possibilité donnée aux maires de déroger au PLU pour la restructuration et la transformation d'usage de bureaux
en logement.
On verra comment les maires s'en saisissent. Mais effectivement... On est toujours dans une situation où la relance n'a pas encore eu lieu, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent que il y a beaucoup d'énergie qui est mise, en tout cas, et on va voir comment ça va basculer. Mais nous, on fait le pari chez Link City de continuer à aller à l'offensive.
Et j'entends bien votre optimisme, parce qu'on va en parler un peu plus tard dans l'interview. Vous avez quand même une capacité à innover justement pour vous adapter à cette nouvelle donne sur ce marché de l'immobilier, du logement au sens large. Mais avant ça, quand même, pour revenir sur l'état des lieux. Ok, on sent qu'il y a une prise de conscience, on est peut-être à ce point de bascule. Mais en attendant, la réalité du marché, c'est quoi à date? Et surtout, on en parlait là aussi, je suis allée regarder sur les sites. Je conseille à tous nos auditeurs et téléspectateurs d'y aller. Allez sur les sites de tous les gros promoteurs immobiliers que vous connaissez. Bouygues, Icade, Next City, Kaufman. Vous avez des promos. Je vous le disais en rigolant tout à l'heure. Je disais, c'est la foire fouille. Vous y allez, c'est 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros par pièce. Les frais de notaire offerts. Certains qui vont jusqu'à compenser ce qu'on va perdre dans le dispositif Pinel. Vous savez qui disparaît à la fin d'année. Et déjà, les ristournes fiscales ont encore été abaissées cette année. Donc, en gros, on a des promoteurs qui multiplient les ristournes, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est juste une bonne nouvelle pour les potentiels acheteurs, ou est-ce que c'est symptomatique des difficultés à écouler les stocks aujourd'hui?
Alors, vous relevez mon optimisme, c'est quand même un optimisme mesuré, et on va voir comment il se confirme dans les semaines et les mois à venir. La problématique des promoteurs aujourd'hui, alors nous, on n'est pas concernés parce qu'on a un modèle qui fait qu'on n'est pas exposé à des stocks, on n'est pas exposé à des actifs, alors que les promoteurs ont besoin aujourd'hui d'écouler des stocks. Ils ont des problématiques de fonds propres, donc ils font effectivement des ristournes, ils font des offres commerciales pour tenter d'écouler leurs stocks, et effectivement, il y a de belles opportunités à saisir. Aujourd'hui, on ne voit pas encore la reprise, et c'est vraiment la difficulté des promoteurs aujourd'hui, c'est les stocks qui sont construits ou qui sont sur le point d'être construits, dont il faut qu'ils se libèrent pour se reconstituer des fonds propres.
Mais justement, est-ce que c'est pas la preuve que ce qu'on disait effectivement sur cette prise de conscience des pouvoirs publics, je pense notamment aussi aux annonces du ministre Guillaume Kasbarian sur notre antenne, qui a annoncé plusieurs mesures de simplification, notamment sur le plan local d'urbanisme et sur le dépôt des permis de construire, sur les recours contre les permis de construire, etc. C'est bien, on essaye d'agir sur l'offre, le fameux choc d'offres qu'on nous avait promis depuis 2017 et qu'on attend, qui va peut-être venir. Mmh. Mais là, on nous a expliqué, et je pense que c'est assez clair pour tout le monde, qu'on a à la fois un problème d'offres, mais aussi de demandes. En témoignent ces fameuses ristournes des promoteurs. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faudrait désormais agir un tout petit peu, compte tenu du contexte économique?
Et si je peux reformuler la question de Marie du point de vue des investisseurs ou des wannabes investisseurs particuliers, pour les épargnants qui suivent cette émission, est-ce que le fait que ce soit les grandes promos et qu'on liquide des stocks, c'est une bonne nouvelle? C'est correctement posé?
C'est pas forcément une bonne nouvelle, dans la mesure où ça montre un peu, je vais pas dire de panique, mais un peu d'inquiétude de la part des promoteurs. Donc, je dirais, il y a des opportunités à saisir, mais on peut pas fonctionner avec des offres commerciales de façon pérenne comme ça. Je pense que aujourd'hui, l'ensemble de ce qui est consenti par l'État, alors, bien sûr, c'est assez facile de dire on va partir sur des simplifications, notamment de procédures.
Disons que c'est pas coûteux.
C'est pas coûteux, mais encore faut-il le faire. Ouais. Hein, c'est quand même un bon signe. Bon, on avait eu la commission Rebsamen, on avait eu le CNR Logement, on a beaucoup tourné autour de ces sujets-là. Maintenant, ces mesures de simplification, elles sont dans les mains des collectivités, dans les mains des maires. On va voir comment les maires sont capables de l'utiliser pour relancer. Et puis, je pense, ça va être pour l'offre. Et puis pour la demande, il y a quand même des signaux qui sont quand même plus favorables que ce qu'on a connu, ne serait-ce que l'année dernière. Ben, tout d'abord, l'inflation. On voit que l'inflation, elle est en train de se stabiliser. Mm-hmm. On voit que les banques, avec le gouvernement, sont en train de réfléchir à la façon dont on pourrait financer l'immobilier. On parle de crédit hypothécaire, on parle de financement in fine, on parle de démembrement de propriété entre le foncier et l'immobilier. On se dit que peut-être, on verra, les taux directeurs vont peut-être baisser dans le courant de l'année. Aucune idée, Marie. Aucune idée.
Bon, alors, je comprends effectivement que là...
Ça va redoper la demande.
De toute façon, ça va effectivement aider à la demande. Et on l'a vu depuis le début de l'année, effectivement, avec les assouplissements bancaires. Bon, on a bien compris qu'effectivement, là, on est plutôt dans l'expectative. On voit du frémissement du côté des pouvoirs publics au sens large, gouvernement, avoir collectivité locale. Maintenant, vous, ce que vous me dites, depuis qu'on se connaît, c'est aux professionnels de s'adapter aux donnes de marché à l'instant T. La donne de marché, elle vous fait quoi chez Link City? Comment vous vous adaptez? Comment répondre finalement aux nouveaux besoins et à la nécessité de ce marché aujourd'hui?
Il faut qu'on arrive à travailler dans un nouveau monde. On peut pleurer sur le Pinel, il est mort. Et on ne peut pas dire le Pinel est mort, vive le Gasparian, par exemple.
Ben non. Le statut du bailleur privé, arrêtez, vous allez faire déprimer tout le monde.
Non, mais je crois il faut se résoudre à l'évidence. Ouais. Il n'y en aura plus, il faut travailler autrement.
Ouais, il y a plusieurs étapes dans le deuil. De tous ceux et celles qui, au cours des dernières décennies, en ont profité, sont des heureux propriétaires. Ce n'est pas parce que quelque chose disparaît que tout part avec.
Non, mais précisément. Non,
ça ne part pas avec. Pour autant. Nous, on veut continuer à regarder l'immobilier de façon innovante et ambitieuse. C'est-à-dire qu'on ne veut pas céder à la morosité ambiante et on veut continuer à réaliser des projets qui soient véritablement en cohérence avec les enjeux des territoires et les enjeux environnementaux.
Et ce sont quoi, alors, concrètement pour vous, ces réponses à cette nouvelle réalité, en fait, à ces nouveaux besoins?
Je vais vous prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est on a été déclaré lors du dernier MIPIM lauréat de l'appel à projet de Paris La Défense empreinte sur le site de 2001. Là, on va construire un programme ambitieux sur un non-lieu. Ce site, c'est un non-lieu. C'est un entrelac de voiries, de dessertes. C'est un gros trou. Quand on le voit la première fois, on se dit mais
waouh.
Il est impossible à construire. Eh bien si. Et la première chose qu'on a faite sur ce site, en fait, c'est créer le paysage, parce qu'il n'y avait pas de paysage. Ouais. Donc on a créé une colline, 17 mètres de haut quand même, de terre végétale. Et on va d'abord créer un paysage, et on va créer un îlot de biodiversité, un îlot qui va lutter contre les îlots de chaleur. Ouais. En gros, on va construire un oasis au cœur de la Défense. C'est ambitieux, mais on va le faire. Et puis après, une fois qu'on a créé le paysage, eh bien, on a pensé à l'architecture et à l'immobilier. Et on va construire la première tour immeuble de grande hauteur bas carbone de France. Il n'y en a pas encore en France. Donc on va faire la première. Et on va faire une tour qui va en faire environ 100 mètres de haut, dans laquelle on va mixer les usages. On va faire un socle actif, dans lequel on aura de la culture, de la gastronomie, de l'enseignement, du sport. Et puis dans les étages, eh bien on va faire un hôtel, on va faire un peu de bureau quand même, on va faire des ateliers logements, on va faire de la résidence étudiante. Et en fait, l'innovation là-dedans, au-delà du caractère BBCA, c'est que autant c'est facile de juxtaposer les usages de façon horizontale...
Ouais, autant à la verticale.
À la verticale, c'est plus compliqué.
Laurent, expliquez-nous juste simplement, on parle beaucoup de carbone, on parle beaucoup de bas carbone. Donnez-nous quelques exemples très très concrets où on peut mesurer effectivement que cette tour multi-usage va être peu consommatrice.
Alors, elle va être surtout peu émettrice de carbone. Un immeuble traditionnel aujourd'hui, tertiaire, c'est environ, on va dire, 1200, 1300 kilomètres carrés. Là, on va être à 700. Et on va être labellisé bas carbone. Comment on va faire ça? Eh bien, on va faire une structure qui va être mixte avec une structure en béton bas carbone et l'ensemble des planchers seront réalisés en bois. Alors, pourquoi on fait pas tout en bois? Tout simplement parce que plus on monte, plus c'est compliqué de lutter contre le vent et il faut un petit peu d'éléments rigides pour pouvoir le faire.
Et moi, j'ai une question à vous poser justement sur ces... Comment, en fait, sur l'aménagement du territoire? Parce que vous avez démarré en nous parlant de ce projet-là, en nous parlant de la création de cette colline, etc. Ouais. Mais vous avez parlé en nous parlant de Longlieu et de La Défense. Moi, vivre à La Défense, c'est pas mon rêve ultime. En fait, est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre rôle, finalement, vient se substituer à celui, bah, finalement, des maires, des collectivités locales et de créer un environnement, pas juste un immeuble, en fait? Est-ce que maintenant, vous êtes... Au-delà même d'être des constructeurs, des aménageurs de territoire.
Tout à fait. on est vraiment des aménageurs du territoire et notre métier aujourd'hui, c'est de répondre aux enjeux des territoires. Alors, on ne se substitue pas ni aux collectivités ni aux aménageurs. On les accompagne. Enfin, on le voit bien, aujourd'hui, la défense est en train de se réinventer et en train de se transformer. Pour qu'on entende plus ce que vous dites, Marie, de dire la défense, no way, je ne peux jamais y habiter. Vous avez vu que de plus en plus, on a de la mixité d'usage. Ouais. De plus en plus, sous l'impulsion de PLD, on a de la végétalisation. Et là, c'est ça qu'on fait, nous. C'est l'accompagnement de cette transformation en apportant, eh bien, voilà, un îlot de fraîcheur, en apportant une connexion avec ce qui existe déjà dans la défense et en apportant une mixité d'usage qui permettra de mieux vivre à la défense. On ne se substitue pas, on accompagne, et un de nos grands piliers stratégiques, c'est l'accompagnement des territoires et la réponse à leurs enjeux.
Laurent, vous êtes plein d'énergie et quelque part, vous portez une parole enthousiaste. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que, pour reprendre l'expression de Marie, on va réussir à aménager ou réaménager des lieux qui sont aujourd'hui inadéquats? Est-ce qu'on va y arriver pour construire une ville qui demain va être vivable? Là, on est fin mars, évidemment, il fait encore tempéré dans notre pays. On va probablement rentrer, je pense, dans des températures très chaudes d'ici quelques semaines. On va reparler tout d'un coup de il fait trop chaud, du réchauffement climatique, au-delà évidemment de ce réchauffement qui est visible avec tout ce qui pleut. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste et positif?
On n'a pas le choix. Ça, c'est la première réflexion qu'on peut se faire. Et oui, et je pense que pour ça, il faut donner la place à l'innovation. Et je pense que s'il y a bien un risque que les promoteurs doivent prendre aujourd'hui, c'est le risque de l'innovation, de l'expérimentation. Je vais prendre un deuxième exemple dont on a parlé aussi au MIPI Macan. C'est la tour Engie à Cergy-Pontoise. C'est une tour construite dans les années 70, une tour pré-contrainte, qui était de bureaux, vide. Qu'est-ce qu'on fait de cette tour aujourd'hui ?
Eh bien, voilà. Un temps, on aurait dit on démolit, on fait autre chose.
Eh bien oui. Eh bien, il faut aujourd'hui repenser les choses pour que ce qui existe déjà, ce qu'on appelle dans notre jargon le « déjà là », soit notre nouvelle ressource. La tour, elle existe, eh bien on va la transformer. En respectant l'œuvre d'un architecte, qui était Enzo Moreau, qui a vraiment fait quelque chose d'assez, je trouve, d'une grande qualité architecturale. Nous, on a travaillé avec Pablo Katz, il va respecter et on va changer l'usage. On va recréer aussi des externalités au pied de la tour pour la reconnecter avec son environnement immédiat. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, Lorraine. Mmh. C'est-à-dire en utilisant ce qui existe déjà comme une nouvelle ressource.
Vous n'êtes pas de ceux comme Emmanuel Lechypre qui pense qu'il faudrait tout raser pour reconstruire.
Non.
Emmanuel Lechypre n'est pas promoteur immobilier, mais chroniqueur. Non, mais c'est toujours intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de professionnels de la construction qui nous ont expliqué depuis de nombreuses années qu'il était toujours plus compliqué de faire avec l'existant plutôt que de démolir pour refaire.
C'est plus compliqué, c'est vrai.
Plus
mais
coûteux.
Là-dessus, c'est vrai. Ça peut être aussi plus coûteux, mais... Je pense qu'il faut que chaque situation soit analysée, qu'on puisse faire le bon bilan bénéfice-risque-bénéfice-ressource pour donner une solution qui soit la plus pertinente à chaque situation qu'on rencontre. Et toujours considérer que si on arrive et si on parvient à réhabiliter, restructurer plutôt que démolir et reconstruire,
c'est une victoire.
C'est mieux parce qu'on va mieux préserver les ressources et moins émettre de carbone.
Bon, on va finir cette interview avec cette question de « Et si vous étiez ministre, qu'est-ce que vous feriez là ?» Vous avez 3 mois pour tout changer.
3 mois ?
Bah oui, vous savez, les 100 jours.
Ah bah ouais, mais là, les temps sont longs pour l'immobilier et le logement, je crois.
Enclenchez en 3 mois et on...
La difficulté de l'immobilier, je reprenais ce que Jean-Louis Borloo disait au dernier colloque de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Il disait, la problématique de l'immobilier, c'est que l'investissement qui est à consentir, il est immédiat. Et les bénéfices qu'on en tire, on est sur le temps long, ils arrivent beaucoup plus tard. Donc c'est compliqué. Donc je pense que effectivement, je ne serai jamais ministre, ça c'est certain. Mais si faisons un rêve, il faut continuer à soutenir l'offre telle que le fait le ministre aujourd'hui. Il faut vraiment travailler sur le problématique de la demande. Et puis je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est que les maires puissent utiliser leurs compétences sur les permis de construire, l'élaboration des PLU. Il faut leur redonner le goût de bâtir. Je crois que la clé, elle est beaucoup là.
Les maires bâtisseurs, on les appelle. Enfin, vous les appelez de vos voeux, cher Laurent. Merci Marie Cœur de Roy pour cette séquence 9, construction et espoir. Merci Laurent Mouret.
Merci beaucoup.
De l'équipe Link City France, Link City Île-de-France. On continue à penser le monde immobilier de demain. Et on fait avec le déjà là. Si je retiens bien. Marie, on se voit demain.
On se voit demain, comme tous les jours.
Et on se voit aussi vendredi. Je vous rappelle que le vendredi, c'est une demi-heure de discussion immo, logement.
Et on parle expat vendredi. Donc si vous avez des questions, expatriés, n'hésitez surtout pas à nous écrire.
Vendredi, chers expatriés, on s'occupe de votre patrimoine immobilier ou de votre potentiel patrimoine immobilier. Vous avez des questions, vous nous les adressez direct à bfmbusiness.fr. Vous pouvez aussi m'écrire en message privé sur LinkedIn. Je vous lis et je transmets toutes vos questions et tous vos messages à Marie Cœur de Roy. Vous restez avec nous, on marque une petite pub et après on va s'occuper d'un sujet géopolitique. On va parler pétrole et uranium, on va faire un topo sur les matières premières, entre autres cuivre, carbonate de lithium, argent. Car oui, ça vous concerne en tant qu'investisseur particulier. A tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de votre culture financière, on s'occupe de votre portefeuille, on s'occupe même de votre patrimoine immobilier dans Tout pour Investir. Là, on va s'occuper de votre culture sur les matières premières. Car oui, vous nous envoyez quelques questions sur ces matières qui occupent parfois la une des médias. On parle beaucoup de cacao en ce moment, mais on n'a pas parlé que de cacao. Bonjour Olivier Le Chevalier.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur de Deft Edge. On va démarrer avec un sujet polluant. Le pétrole. On va faire un petit point sur le pétrole,
exactement.
Sans blague. Puisque, alors, on se parle, le Brent est au-dessus des $85. On aimerait comprendre un peu ce qui se passe autour du pétrole, qui monte doucement, sans que ça fasse la une des médias.
En fait, tout d'abord, c'est vrai qu'effectivement, le pétrole, la hausse du baril a pris 30% depuis le début de l'année. Tout ça, c'est dû en fait notamment par rapport aux relations avec l'Ukraine, la Russie, où il y a eu des doutes en fait sur la partie approvisionnement. Donc du coup, forcément, ça, les Américains ont repris les USA la partie sur ce sujet pour avoir plus d'indépendance et aussi en fait pouvoir être le premier producteur mondial sur cette activité. Donc effectivement, pour nous, en tout cas pour la partie européenne et française, en tout cas, on se retrouve un peu plus dépendant de nos amis américains. On voit bien, je voulais juste rajouter qu'on voit bien qu'il y a une scission qui se pose aussi au niveau des énergies, des matières premières. C'est-à-dire on voit plutôt un côté russe et un côté un peu plus pays développés, Amérique, Europe, sur ce sujet, où on va avoir en fait des pays qui vont se rallier derrière ces deux puissances, en tout cas.
Pour bien comprendre, aujourd'hui, notre plus gros fournisseur de pétrole en France et en Europe, c'est qui ?
Notre premier fournisseur, en tout cas, on a une partie, sur la partie. Pétrole, on a d'abord c'est effectivement les USA et quand même tout ce qui est pays Émirats, Arabes, Afrique du Nord. Et après sur la partie en tout cas gaz naturel liquéfié, c'est surtout là on a une énorme dépendance qui s'est jouée parce que l'Europe est surtout passée de la Russie vers les États-Unis.
C'est sur ça qu'on explique un baril à $85 ?
Du coup, il y avait plus d'appétit, en tout cas, et plus de confiance de la part des investisseurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une hausse. Mais attention, il peut y avoir un effet de ralentissement. Là, demain, on va voir les chiffres du PIB américain et qui, du coup, peuvent donner un renfort au dollar. En général, le dollar et l'inverse réagit de manière inversée au pétrole. Donc, si le pétrole monte, le dollar s'affaiblit. Mais si le dollar se renforce, en fait, le baril en fait, va stopper aussi sa croissance.
Voilà, le poids du dollar aussi dans ce chiffre du baril de pétrole. On a pas mal de matières premières à discuter avec vous, mais d'abord un tout petit pas de côté pour les investisseurs particuliers qui nous écoutent. S'arrêter sur le prix des matières premières, que ce soit le cuivre, l'argent, le pétrole là dont on parle, pourquoi c'est important ?
On en a dans notre quotidien, tous les jours. Je pense que tout le monde est concerné sur ces sujets. Tout le monde va à la pompe pour faire son plein d'essence, son plein de diesel. Tout le monde va aussi, quand vous êtes dans les métiers de la construction, on va avoir du cuivre, ces parties qui font les câbles électriques, les réseaux d'eau, etc., tout ce qu'on peut retrouver. Tout ce qui est argent, effectivement, on va le retrouver dans les connecteurs qu'on peut retrouver dans l'industrie photovoltaïque, dans tout ce qui est autour de l'électronique, en tout cas. Et du coup, bah, voilà, pour le prix de l'argent aussi, il avait pas mal évolué. Juste la petite parenthèse qui est pas mal corrélée au dollar. Enfin, pardon, à l'or, excusez-moi.
Le cuivre, vous en parlez. On sait l'importance de ce métal, on va dire ça. En début d'émission, on disait que le prix du cacao venait de dépasser le prix du cuivre. Alors, le prix de la tonne de cacao a touché les 10 000 dollars hier du côté de New York. C'était à peu près la même tendance du côté de Londres. C'est au-dessus du prix de référence du cuivre. Au-delà, bon, de l'effet, on raconte cette anecdote. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, pour le cacao, tout simplement, c'est-à-dire que en fait, il y a un énorme stress sur ce marché. Donc, en fait, on a cette partie où on est en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Ghana, Côte d'Ivoire, où on a des cacaotiers enfin, qui sont vieillissants, qui sont attaqués par des maladies. Et en plus, de surcroît, en fait, on va avoir aussi cet impact réglementaire. C'est-à-dire qu'on va plus pouvoir importer de cacao à partir de décembre 2024 sur tout le cacao qui proviendrait en fait de déforestation. Donc ça opère aussi un stress supplémentaire. Donc on voit bien que déjà, là, c'est surtout sur un sujet agroalimentaire et surtout aussi il est boosté parce qu'il y a de plus en plus de pays développés qui consomment aussi du cacao. En tout cas, pour la partie cuivre, en tout cas, de toute façon, là, on est plus dans la transition énergétique qui avait pris un peu de retard à cause de la Chine qui avait connu son ralentissement aussi par rapport à l'utilisation de batteries et à cette transition énergétique. En tout cas, la relation n'est pas toujours évidente, mais en tout cas, si jamais la Chine venait à ralentir, en tout cas, le prix du cuivre aussi ralentirait sa consommation. Enfin, en tout cas, le prix pourrait baisser. En revanche, sur le cacao, on pourrait quand même encore estimer où JP Morgan, je crois, et Barclays se mettaient d'accord pour que le prix monte encore, en fait, sur la partie cacao pouvant atteindre encore plus de 10 000.
On va revenir sur la partie peut-être alimentaire tout à l'heure. Pour revenir sur le cuivre, aujourd'hui, le cuivre provient majoritairement de Chine.
Oui.
Expliquez-nous l'état de l'industrie du cuivre en Chine.
Alors, pour le moment, en tout cas, sur la partie cuivre, on avait noté une forte baisse en septembre dernier. Donc là, on est reparti à la hausse, mais là, le prix avait quasiment été divisé par deux, parce que là, on est sur le cuivre, sur le cuivre, on est dans les 8007. Hein, en fait, on avait pas mal baissé, je vous ai dit une petite bêtise. Hein,
8700 dollars.
Exactement, sur le cours. Sur cette partie, donc il avait baissé parce qu'il est tracté, en fait, surtout par l'industrie chinoise. Et donc, comme elle était au ralenti, avec des mauvais chiffres, tout ce qui s'était passé aussi quand on s'était vu la dernière fois avec Evergreen,
oui,
des difficultés, donc du coup, ça pesait. Et là, cette année, on est quand même dans ce côté renouveau, les 75 ans l'anniversaire du Parti communiste chinois, en tout cas, qui se passe le 1er octobre. Donc, en tout cas, la Chine cherche à montrer qu'elle est dynamique et donc, du coup, en tout cas, vient aussi essayer de tracter la croissance et de remettre, en fait, parce qu'il y avait les stocks de cuivre qui s'étaient écoulés et donc l'objectif maintenant, c'est de pouvoir reproduire de nouveau.
Un cuivre avec un cours élevé. Alors, on avait la barre des 10 000 tout à l'heure. Là, on disait que le cours du cuivre est autour de 8 748 dollars à l'heure où on se parle. Oui. Ça se répercute comment et dans quel prix ?
Alors, ça se répercute comment ? En tout cas, on va surtout le revoir forcément dans tout ce qui est industrie, la construction et l'énergie et tout ce qui est en fait panneaux photovoltaïques pour tout ce qui va en fait accompagner la transition énergétique. En fait, on en a besoin en tant que connecteur, on en a besoin aussi pour transmettre l'électricité qui peut faire un lien en fait avec toute la consommation d'uranium et d'électricité qui va accompagner ce mouvement. En tout cas, il y avait un ralentissement et du coup, là maintenant, il y a une reprise en tout cas qui s'effectue sur ces domaines.
Une autre matière dont on a besoin et dont on ne parle pas tous les jours, c'est le carbonate de lithium. C'est un matériau qui est utilisé notamment dans les batteries électriques. Faites-nous le portrait du carbonate de lithium.
En fait, c'est un conducteur qui permet tout simplement en fait au fonctionnement de la batterie. Et du coup, il y avait de fait, hein, c'est un peu pareil, comme le cuivre, il y avait un ralentissement sur demande. Donc, si vous n'avez pas de demande sur la batterie, s'il n'y a pas de demande sur la partie ESG, effectivement, toutes ces matières qui servent de conducteurs, eux, baissent aussi derrière. Et du coup, s'il y avait, et la Chine aussi, en fait, avait stocké pas mal et donc était obligée, en fait, d'abord de déstocker pour pouvoir effectuer cette relance.
Obligé de déstocker. Bon, vous nous expliquez là aussi que la Chine est centrale sur ce carbonate de lithium.
Exactement. Donc c'est le pays, en tout cas, avec l'utilisation du cuivre, de tous ces produits, en fait, qui est le premier utilisateur, le premier producteur, en tout cas. On le voit notamment dans toute l'économie. Donc voilà, juste sur ces parties-là, en tout cas, on voit bien que c'est la Chine, comme d'habitude, qui est l'ogre industriel du monde.
Nous faisions un petit peu plus tôt un sujet sur l'investissement dans la souveraineté européenne. Comment peut-on parler de souveraineté quand on voit notre dépendance aux matières premières qui viennent quasiment toutes de l'étranger?
Comment du coup être moins dépendant?
Bah, malheureusement, plus indépendant, oui, sans doute.
Oui, plus indépendant. Bah, la difficulté, je pense, elle reste toujours économique. Hein. Si vous n'avez pas les ressources, si vous n'avez pas la possibilité d'en avoir, en tout cas, bah, vous êtes obligé, de toute façon, d'importer ces matières premières. Et de toute façon, le consommateur, c'est aussi lui qui drive. Hein. C'est un peu le sujet qu'on revoit depuis le début de l'année en termes d'économie générale. C'est-à-dire, oui, je veux bien soutenir l'économie française, mais bon, mon portefeuille préférait quand même acheter le moins cher possible.
On ne peut pas parler de transition énergétique, en tout cas en Europe et en France, sans parler du nucléaire. Et le nucléaire, on ne peut pas en parler sans parler d'uranium. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point, Olivier, de l'équipe Deft Edge, sur la géopolitique de l'uranium?
Alors, sur cette partie géopolitique, c'est vrai qu'on en entend peut-être beaucoup moins parler, en tout cas dans l'actualité. Enfin, je dirais, quand on est investisseur, on va toujours se concentrer sur des matières premières qu'on connaît bien ou dont on entend parler. Et c'est vrai que le vrai sujet reste l'uranium, parce que qui dit indépendance énergétique, production d'électricité, eh bien, si on veut le produire à moindre coût, la meilleure solution, c'est quand même d'utiliser le nucléaire. On n'a jamais vu autant cette année de construction, en tout cas de centrales nucléaires.
Donc, une soixantaine à peu près cette année.
Exactement, une soixantaine, donc, dont exactement, je crois, une vingtaine en Chine, surtout 8 en Inde, et après c'est la Corée qui viennent aussi prendre le lead sur cette partie avec 4 centrales nucléaires. En tout cas, c'est essentiel. Donc, ce qui dit, en tout cas, aussi, il y a eu ce problème en tâche de fond, qui était de dire il y avait le Niger, qui était le 7e producteur mondial d'uranium, qui était avec la France, qui est passé après avec les Américains, puis qui finalement s'est associé à la Russie. Donc, pour revenir sur cette géopolitique, on voit bien qu'il y a un peu deux mondes qui se distinguent. D'un côté, un peu le côté russe et les pays qui se rangent derrière, donc on l'avait vu au préalable. Et après, toute la partie en fait, qui vient se ranger derrière l'Europe et les États-Unis. Et quid de ce qui se passera avec Donald Trump si ne s'offrait pas un troisième opérateur à partir des nouvelles élections, s'il est réélu. En tout cas, voilà, c'est un sujet vraiment important sur la partie consommation d'électricité, où là, on voit qu'il y a de la demande et l'offre reste toutefois limitée.
Voilà, ces matières qu'il faut surveiller d'un point de vue évidemment financier, mais surtout, on l'entend d'un point de vue géopolitique. On parlait de cacao, on va finir sur ce sujet que tout le monde s'approprie, parce qu'évidemment, c'est bientôt Pâques, tout le monde aime le chocolat. Mais plus sérieusement, la tension qu'il y a sur le cacao, qui est à l'origine évidemment du chocolat. Le potentiel de la consommation de chocolat dans le monde, je crois que les Français, on consomme 3 ou 4 kilos par an, les Américains, c'est 9. Mmh. L'Inde et la Chine, c'est anecdotique, mais on imagine que c'est en croissance.
Exactement.
Il va y avoir des tensions dans le monde de demain, il y en a déjà dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le cacao est sous les radars. Quel autre produit, j'ai envie de dire, populaire de grande consommation est sous les radars et dont on ne parle pas, pour conclure cette interview,
J'ai envie de dire dont on ne parle pas. J'ai envie de dire que de toute façon, là, donc il y a le cacao. Effectivement, là aussi, il y avait quelques informations qui sont tombées, notamment sur le sucre, où on avait des difficultés, en tout cas sur les planteurs européens, à venir tout simplement semer les terres. Donc on pourrait dire qu'il pourrait y avoir un stress sur le prix du sucre plus tard. Est-ce qu'il va y avoir encore le nouveau phénomène en Italie, en Espagne, avec le phénomène El Niño? Est-ce que l'huile d'olive va pâtir de ces difficultés? Est-ce que, de toute façon, le café aussi, de toute façon, on voit bien qui faisait partie de l'indice Bloomberg entre l'énergie et les matières premières, qui faisait monter d'une manière générale. Donc, en tout cas, on est vraiment sur des difficultés, où on va aussi avoir peut-être des tensions sur le jus d'orange ou sur ces produits. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est café, cacao, sucre, notamment sur la partie jus d'orange. Et après, on va avoir quand même les céréales, si jamais il y avait encore un rapport qui a été publié sur l'utilisation du glyphosate, qui dit tension sur l'utilisation de pesticides, dit peut-être augmentation aussi du prix des matières premières.
Merci beaucoup Olivier Le Chevalier de Deft Edge pour ce tour d'horizon, ce petit topo sur les matières premières. Vous reviendrez nous voir régulièrement pour continuer à surveiller ces sujets et les évangéliser auprès de notre audience. Merci beaucoup. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site BFM Business. Vous restez avec nous, toute petite pub, et ensuite on vous emmène dans un monde parallèle, celui de la bande dessinée, pour réfléchir à un investissement thématique. Tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement, investir dans un monde imaginaire qui fait rêver, en tout cas qui change les esprits. La bande dessinée. Bonjour Éric Leroy.
Bonjour.
Éric Leroy de la maison Arcurial avec nous. Vous êtes leur expert bande dessinée. Et avec vous, on va réfléchir financièrement, économiquement, au marché de la BD, le décrypter, en parler du point de vue de l'investisseur potentiel que nous sommes, mais aussi d'un point de vue économique, essayer de décrypter ce marché où, bon, sans être chauvine, on est pas mal en France.
On est plutôt pas mal, effectivement, parce qu'on a des grands collectionneurs qui sont nostalgiques de Astérix, de Sampé. Alors évidemment, nos amis belges sont présents avec Gaston Lagaffe et surtout Tintin. On a eu tous les records chez Arcurial. Effectivement, les gens qui ont acheté des planches de Tintin il y a 30 ans ont fait de meilleures affaires, je crois, qu'en bourse, puisque le dernier dessin record que l'on avait vendu il y a 2 ans, 3 ans, c'est 3 millions d'eux.
Un dessin d'Hergé.
D'Hergé, oui.
3 millions d'eux.
Oui, voilà.
Ces chiffres, ces envolées aux enchères, elles disent quelque chose du marché de la BD. Vous avez dit, voilà, des collectionneurs qui cherchent à s'approprier quoi ? Un petit bout de leur enfance ?
Oui, c'est ça. En fait, l'avantage de la bande dessinée, c'est que je dis toujours, on ne dépend pas du yen, du dollar. C'est vraiment un marché de passionnés qui retrouvent leur enfance ou qui apprécient vraiment le graphisme de ces artistes. Parce que c'est vraiment des artistes. Quand on voit le dessin d'Enki Bilal, on voit tout de suite que c'est un génie du dessin. D'ailleurs, il a commencé dans les rues de Belgrade à dessiner à la craie sur les trottoirs. Donc, on voit vraiment...
Redites-nous son nom.
Enki Bilal.
Enki
voilà,
Bilal.
Voilà, qui est un des artistes français vivants le plus cher aujourd'hui sur le marché de l'art. Et donc, c'est vrai que... on a ce marché qui est très fort parce que c'est un marché de passionnés, de, vraiment de collectionneurs. Et finalement, on n'a pas vraiment de spéculateurs. On est un marché sain.
Un marché sain. Bon, on entend des auteurs contemporains à suivre, mais aussi beaucoup qui ont disparu. Sampé est mort il y a bientôt 2 ans.
Oui.
Parlez-nous un petit peu de Jean-Jacques Sampé et de ce que ça donne aux enchères.
Alors, on a fait une vente en 2021 avec lui. Il était d'ailleurs ravi de cette vente. On avait eu l'occasion de le voir après la vente dans son atelier. Il était absolument ravi et très fier, puisqu'on avait battu le record à 78 000, près de 80 000 euros, pour un dessin en couleur publié pour le magazine New Yorker. Donc ça, on voit... Là, on est plus, je dirais, dans l'illustration, moi, la bande dessinée, c'est vraiment quelqu'un qui regardait le monde et qui décrivait notre société, finalement. Donc, c'est vraiment un personnage, un artiste très intéressant, qui vient d'ailleurs aussi un peu du milieu de la publicité, de l'illustration, comme les Shadok que l'on vend bientôt le 10 avril chez Arcurial, où là, on voit que Jacques Roussel, il est vraiment un féru de la publicité, de la création, puisque, en fait, son but ultime, c'était aussi de faire du cinéma. Et là, on retrouve toute l'activité, toute la création de la France à l'époque sous le président Pompidou, où la France était vraiment un pays créateur, voilà, où tous les grands chantiers ont été lancés entre les centrales nucléaires, le TGV et les barrages...
Le Concorde.
Le Concorde, exactement. Donc, la bande dessinée a aussi suivi cette évolution et a fait partie de cette création et de l'évolution, finalement, de la société française.
Évolution, mais surtout pas de contenu caduque. On voit la popularité de Gaston Lagaffe sous la plume de Franquin. Le monde du travail décrit par Franquin est étonnamment contemporain.
Oui, et on peut rajouter d'ailleurs aussi tous les Marvel américains. Est-ce qu'en fait, je dirais que le cinéma américain, ces dernières années, vit grâce à Spider-Man, Iron Man, enfin, c'est des plus gros succès, c'est des
qui
milliards.
Qui datent pas d'il y a 5 ans.
Exactement, c'est des milliards de dollars qui sont en jeu. Et on voit les jeunes générations sont absolument passionnées par ces aventures. Mmh. Alors, Tintin... il y a eu le film de Peter Jackson, Astérix, on connaît, c'est à chaque fois la sortie d'un film d'Astérix, c'est un blockbuster, mm-hmm. et on se souvient aussi de Jamel dans Astérix et Cléopâtre, avec toute la bande de Canal+, où c'était absolument merveilleux. Donc ça fait vivre, c'est des œuvres qui vivent, et c'est ça qui est formidable.
Chaque époque qui rajoute une couche de vie à ses œuvres, on peut notamment parler des 70 ans de l'héroïne Martine, oui. avec laquelle plusieurs générations ont grandi. À titre oui. personnel, je pense à ma mère qui a grandi avec, mais aussi à ma fille qui grandit avec. Mmh. Martine, aujourd'hui aux enchères, dessinée par Marcel Marlier, ça donne quoi ?
Eh bien, c'est une famille qui a gardé quasiment tous ses dessins de son vivant. Il n'a rien vendu. Et on avait fait une première vente il y a quelques années. Là, on passe 15 dessins des petites gouaches magnifiques. C'est vraiment c'est un virtuose du dessin. On se demande comment il arrive à être aussi précis à la gouache. Et donc, on vend chez Arcurial, effectivement, ces 15 petites gouaches le 10 avril. Et là, il y a un univers formidable. On voit que le dernier Martine au Louvre a été vendu déjà à plus de 70 000 exemplaires. Donc, c'est un véritable phénomène. Et c'est encore une fois, je dirais, un art qui est en pleine diffusion dans les différentes couches de la société et qui est très populaire et à la fois, oui, on peut dire qu'il traverse les âges.
Bon, Eric, vous le savez, cette émission, c'est une émission d'investissement. On parle d'argent. Bon, je pense qu'on peut chacun être sensible à la volonté ou pas de collectionner de la bande dessinée. On comprend que c'est un sujet très personnel, ce dans quoi on investit. Néanmoins, vous nous avez parlé de planches qui s'envolent à 3,3 millions pour Hergé, une planche de Tintin. On sait que la BD, on peut aussi bien acheter l'album pour une vingtaine d'euros à la librairie. Et en même temps, voilà, on peut toucher du doigt de la collection avec des planches qui vont vieillir, qui vont prendre de la valeur. Aujourd'hui, on peut commencer à collectionner avec combien d'euros ?
Alors, moi, je dis toujours, dans mes ventes, je tiens toujours à avoir des lots à 100, 200, 300 euros. On peut acheter des planches de Greg, d'Achille Talon, qui est connu, pour 500 euros. Donc, c'est vraiment un art populaire, et ça, il faut garder aussi ce côté populaire. Mais ce qui est populaire est souvent collectionné. C'est-à-dire que, quand on voit... que par exemple des petits jouets de Kinder Surprise sont collectionnés aujourd'hui, ou voilà les Pokémon qui s'échangeaient dans les cours de récréation il y a 20 ans. Enfin, tout ça fait que c'est l'avantage de la bande dessinée, c'est que c'est un art populaire et qui devient finalement un art tout court et qui devient aussi un placement formidable. Et je rajouterais même que ça prend pas de place, ça va prendre moins de place qu'une voiture, ça prendra moins de problèmes que des appartements en location. Donc c'est vrai que la bande dessinée, c'est un placement, je dirais, assez intelligent.
Voilà, je vous renvoie à la vente qu'Arcurial organise d'ici quelques semaines, le 10 avril, où on pourra retrouver un ensemble de planches, vous l'avez dit, des Shadok, et puis de Martine, des planches de Martine. Oui.
On aura du Astérix également, du Bilal, voilà, du Hergé.
Enki, Bilal, la tétralogie du monstre, voilà un des titres vers lesquels vous pouvez vous tourner, Albert Uderzo, Les aventures d'Astérix. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer.
Oui.
Et puis voilà, ce monde de la BD que vous couvrez, Éric Leroy, au sein de la maison Arcurial. Merci beaucoup d'avoir partagé votre passion avec nous. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay si vous l'avez attrapé en cours de route sur le site BFM Business. C'est la fin de l'émission. Merci à toutes et tous pour la préparation. Merci à toutes et tous d'avoir participé aussi par vos différents messages. Vous continuez à nous écrire. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On a prévu de parler de la fin du monde. Comment gérer son budget en période de fin du monde ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de doom spending en bon franglais. Nous en parlerons demain. Et puis on parlera aussi vin et NFT demain avec un vigneron qui vend sa collection via la blockchain. Intéressant, on le questionnera demain. Mais avant demain, il y a toute l'après-midi sur BFM Business avec Sandra Gandoin qui prend les manettes dans quelques minutes.
Bonjour Sandra.
Le programme d'avec vous. On va apprendre à gérer ses avis clients, on va parler de RH et de parentalité, se demander si le management féminin est différent du management masculin, et puis évidemment on va parler de épargne salariale, participation, intéressement pour cette journée spéciale sur BFM Business. On va y revenir bien sûr dans avec vous sur ces questions, mais aussi sur toutes celles que vous allez nous poser. L'adresse à connaître avec vous à bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez, vous pouvez aussi mettre des commentaires sur notre live, réagir, nous poser toutes vos questions. Nos experts sont là pour vous répondre.
C'est dans quelques secondes la libre antenne de l'économie. Amaury Tonquédac a décidé de ne pas venir faire son teasing, mais je vais le faire à sa place. L'émission BFM Crypto Le Club, c'est dès 15h et à 21h30 en direct sur notre antenne, et puis à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast. Le Bitcoin se traite au-dessus des 70 000 $ à l'heure où on se parle, 70 127 $. Vous en entendrez parler avec Amaury et ses experts à 15h sur notre antenne. D'ici là, bonne écoute sur BFM Business et je vous dis à demain.
Tout pour investir sur BFM Business.